le président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, la voix sous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rajah de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, la voix à tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, la voix sous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, la voix sous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de l'émission Pas de quartier, bonjour. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM. Aujourd'hui, cette émission sera dédiée à Clément Méric et notre invité Thierry Vincent. Bonjour Thierry.
Bonjour Ariama.
Avec Samuel et François.
Bonjour.
Thierry Vincent va nous expliquer qui est Clément Méric. Alors Thierry, avant que tu ne commences, je vais présenter ton dernier ouvrage.
Oui.
Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues aux éditions de l'Observatoire. Alors, ton ouvrage, on peut le trouver à Publico, notre librairie chérie.
Excellente librairie.
Merci. 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Pour ceux qui ne sauraient pas comment faire pour y aller. Clément Méric.
Clément Méric était, je vais vous parler malheureusement au passé, était un jeune étudiant de 18 ans, de Sciences Po, extrêmement brillant, hein, qui est arrivé à Paris, venait de Brest, il est arrivé à Paris, il a commencé à militer à Solidaires étudiants, donc il était proche de, enfin, je suis un militant d'extrême gauche, et il militait parallèlement dans l'antifascisme, avec l'action antifasciste Paris-Banlieue. Et il s'est retrouvé par hasard, après une vente de privée de polo Fred Perry, dans une bagarre entre lui et ses camarades d'un côté, qui n'étaient pas armés, faut le préciser quand même, et des skinheads qui, eux, étaient armés de poing américain. Bon, c'était pas du tout un bagarreur, hein, c'était un... un jeune homme très plutôt intellectuel qui en plus était en rémission d'une leucémie, donc pas forcément guéri à la bagarre du tout, et qui malheureusement est décédé sous les coups d'un skinhead, donc tué par un skinhead. Skinhead, je tiens quand même à le préciser, à dire son nom, qui appartenait aux jeunesses nationalistes révolutionnaires de l'affreux Serge Ayoub. Qui lui d'ailleurs n'a pas été inquiété dans cette histoire, et c'est une affaire très triste. Je vais rencontrer également ses parents, effectivement. C'est une affaire très triste qui va bientôt faire 10 ans, hein. C'est le 6 juin 2013.
Tout à fait. Voilà. Samuel, alors nous allons revenir sur. On va présenter les Black Blocs, leur histoire. Tu as été invité à Radio Libertaire pour présenter la représentation des Black Blocs.
Un mémoire de master donc, que j'avais fait effectivement à Paris 1 et dont on a déjà fait une émission à cette radio, à cette émission.
Émission brillante, je dois reconnaître.
Et du coup là on reçoit donc Thierry Vincent pour son livre donc, Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues, qui est un livre qui aura de toute façon plus large audience que mon mémoire, donc on peut au moins les rendre ça. Et donc il revient effectivement de manière assez factuelle sur un certain nombre, comme c'est indiqué dans le titre, d'idées reçues, et pour tenter de donner une approche factuelle, même si c'est pas un livre qui se revendique d'une neutralité journalistique qui est critiquée d'emblée. Donc je sais pas si toi tu voulais revenir là-dessus, Mariama, tu voulais
dire... Oui, alors Thierry Vincent, tu dis que page 14 et 15 dans ton ouvrage... Ceci à propos de tes méthodes de travail. Tu dis, je ne prétends pas à l'objectivité journalistique qui est selon moi une fiction.
Oui.
Le journalisme est un sujet pensant, lui aussi avec sa sensibilité, ses opinions sont vécues. Je prétends à l'honnêteté journalistique, ce qui est tout à fait différent. Mes propres opinions politiques n'ont en soi pas grand intérêt. Ayant autant travaillé sur l'extrême droite que sur l'extrême gauche, je dois néanmoins, par honnêteté, affirmer ma propre subjectivité sur ce sujet. Si je n'ai jamais milité dans aucune organisation, si je ne me considère pas comme un journaliste militant, je ne me mets pas ultra-droite et ultra-gauche sur le, je ne mets pas ultra-droite et ultra-gauche sur le même plan. J'ai une nette répulsion pour la violence d'où qu'elle vienne. Voilà.
Oui, et la suite, c'est mais comment, quelque chose comme ça, comment mettre une équivalence entre la noirceur mortifère d'une ratonnade et le rouge ardent d'une émeute, malgré des débordements, c'est pas formulé comme ça, mais effectivement, alors sur l'objectivité journalistique, c'est une fumisterie, ça m'a toujours exaspéré. On est tous le produit de préjugés, de vécus, etc., tout un tas de choses. Enfin, c'est complètement idiot de parler d'objectivité journalistique. Je pense qu'il vaut mieux, par honnêteté, comme on disait en 68, dire d'où tu parles. Donc moi, effectivement, je ne me considère pas comme militant, mais entre extrême gauche et extrême droite, je suis désolé. C'est incomparable, et le truc, les extrêmes se rejoignent, je crois qu'il n'y a rien qui m'exacerbe plus. Pour une raison simple, d'ailleurs, on peut prendre l'exemple de quelqu'un considéré comme de droite, qui était Raymond Aron, qui disait une chose assez juste, dans le fond, c'est pas les termes exacts, mais il disait en fait que la différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, ou entre le communisme, malgré ses dérives staliniennes, et le fascisme ou le nazisme, la différence, c'est que l'extrême droite, c'est vicié à la base. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui prône la haine et la violence. C'est ça, la finalité. C'est vicié à la base. L'extrême gauche, ça part
d'une bonne intention.
D'une bonne intention, voilà, ou d'un idéal plutôt noble, enfin, qui parfois est dévoyé, effectivement, et peut amener à des violences, etc. Mais c'est pas du tout la même chose que l'extrême droite, où la violence et la haine est une fine, et le culte du plus fort, la loi du plus fort est un but en soi, quoi. Donc effectivement, je tiens à dire dès le début que j'ai travaillé effectivement sur les deux, mais pas du tout de la même manière, parce que je considère que c'est pas du tout la même chose.
Samuel.
Donc bon, pour les auditeurs tête de pas de quartier ou habitués à Radio Libertaire, je pense qu'ils sont quand même assez familiers, en tout cas avec le Black Bloc. Ils savent, ils savent que c'est une méthode de manifestation, une méthode militante qui naît en Allemagne, donc dans des squats, par opposition notamment aux velléités du gouvernement d'expulser les 10 squats, qui s'exporte ensuite, donc avec la date clé de Seattle en 99. Et qui finit par s'importer en France, lentement, avec des épisodes plus ou moins connus. Donc, je sais pas, c'est lequel le premier déjà que tu traites dans ton livre, toi ?
Alors moi, en France, je parle un peu du CPE, mais il n'y a pas vraiment de Black Bloc. Moi, je parle surtout de la loi de travail comme point de départ. Ouais. En fait, si on doit être vraiment, vraiment beaucoup plus précis, bon, il y a eu d'autres événements avant-coureurs, notamment, alors là, j'ai oublié la date. Il y a l'OTAN, sommet de l'OTAN en 2009 à Strasbourg. Mmh. Alors bon, je dis, oui, c'est la France, en même temps, c'est la France sans être la France, c'est-à-dire que c'est beaucoup importé d'Allemagne, pour le coup, plus de la moitié, ou au moins la moitié, c'est des black blocs allemands. Et sinon, il y a, je crois que c'est 2009, je crois, il y a une manif anticarcérale à Poitiers. Là, c'est vraiment, vraiment, je pense, le premier black bloc purement français, parce que là, ils prennent tout le monde par surprise. Personne n'est au courant, les flics, ça, personne n'est au courant de cette manif, et ils arrivent à Poitiers parce qu'il y a un centre de rétention qui là-bas, ouais, qui doit être construit ou agrandi, je sais plus, et là les flics sont complètement débordés. Puis les médias déjà commencent à dire, ah mon Dieu, que c'est les sauvages qui ont tout cassé, alors qu'on voit des vidéos amateurs et un gamin qui filme qui a l'air plutôt de rigoler. Oh, qu'est-ce qu'ils font, ils ont cassé un magasin SFR, enfin ça a l'air de voilà. Donc ça, et mais bon, disons massivement, ça arrive vraiment en 2016 par la loi travail.
Et ce qui est intéressant, donc peut-être ce dont on pourrait parler aujourd'hui, c'est la manière dont l'appropriation médiatique de ce Black Bloc en tant que qu'idée aussi, quoi, en tant que sujet médiatique, a évolué à mesure qu'ils arrivent en France. Donc moi, c'est vrai, quand j'avais étudié les premiers événements, effectivement, médiatiquement, avant que le Black Bloc arrive en France à proprement parler, on en parle déjà pour Seattle et pour Gênes. Mm-hmm. Donc ils sont quand même des événements à retentissement mondial, donc avec une couverture médiatique assez importante. Il y a effectivement la manif anticarcérale de Poitiers et puis d'autres sommets internationaux, en réalité, qui sont traités. Et ce que j'ai pu observer, en tout cas moi, quand j'avais travaillé là-dessus, c'était que même dans des médias desquels on ne s'attendrait pas forcément à avoir, en tout cas, envie de donner la parole au Black Bloc, ça a pu arriver. Je pense à un article du Monde qui était, il me semble que c'est des zadistes, mais donc des zadistes qui avaient constitué un bloc pour repousser une offensive policière. Et la journaliste du Monde est plutôt en fait favorable, et c'est un traitement, en tout cas à défaut d'être favorable, leur laisse la parole et leur laisse le droit de réponse, quoi. Et c'est pas forcément un traitement qu'on retrouvera après, par exemple, pendant les Gilets jaunes. Et donc toi, comment tu l'expliquerais, cette évolution de l'appropriation du Black Bloc dans le milieu médiatique ?
Effectivement, la médiatisation vraiment au niveau international commence à Seattle. Avant, en gros, personne ne sait ce que c'est, hein, en France. Mmh. Moi-même, d'ailleurs, avant Seattle, j'ai entendu parler de Black Bloc. Hein. Donc il y a Seattle et Gênes. Mais alors évidemment, Seattle et Gênes, ils sont quand même victimes, hein, les Black Blocs. Enfin, Seattle, d'abord, c'est quand même la police qui ça c'est factuel, hein, qui réprime de manière très, très, très excessive des mouvements qui altermondialistes qui, pour l'essentiel, sont pacifiques, enfin, de désobéissance civile, donc illégalistes, mais pacifiques. Et là, effectivement, des Black Blocs se mettent en place, mais il y a même le maire de Seattle, d'ailleurs, qui avait donné l'autorisation à la police de faire feu si ça dégénérait. Donc là, ils sont un peu victimes. Il y a une répression terrible. Alors, Gênes, j'en parle même pas, mais... si on prend une organisation comme Amnesty International, considérée comme sérieuse quand même, et pas une organisation militante politiquement, il parle de la plus grave atteinte aux droits de l'homme dans un pays d'Europe occidentale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, il y a des gens torturés, des gens menacés de viol, on leur demande de crier des cris fascistes et tout ça. Donc là, effectivement, d'abord, c'est pas chez nous, et puis là, ils sont plutôt victimes, même si effectivement, ils se livrent à des dégradations, mais c'est quand même les victimes d'une répression totalement hors de proportion. Donc là, on a plutôt tendance à les soutenir. Sur ce qui est des zadistes, au début, la ZAD, ça commence doucement, et puis c'est plus perçu comme un truc un peu radical, mais un peu de babacool.
Les nouveaux José Bové.
C'est un peu ça. C'est pas perçu vraiment comme du Black Bloc en noir qui casse, etc. C'est pas encore cette perception-là. Et je dirais, à partir du moment où c'est un peu folklorique, c'est presque amusant, c'est perçu un peu comme ça, c'est sympathique. Bon, ça, de toute façon, ça mange pas de pain et ça fera pas beaucoup de dégâts. Donc, il peut y avoir effectivement, ça et là, une certaine sympathie. Et après, quand ça arrive vraiment, parce que les journalistes sont dans les villes, hein, ils sont pas à la campagne, hein, ils sont même à Paris. Hein. Et quand ça arrive à Paris et que ça commence à casser
des banques ou des symboles capitalistes.
Des symboles capitalistes, il faut préciser que c'est ça qui est cassé. passé qui est visé, hein, même si la notion de symbole capitaliste, elle peut être un peu large. Enfin, c'est pas. Je pense qu'ici, les auditeurs le savent. Enfin, c'est pas le reste. Je dis ça parce que la plupart des gens ne le savent pas. Hein. Ils croient que les Black Blocs, ils cassent le café du coin. Hein, ou qu'ils vont agresser les gens dans la rue. Donc, évidemment, c'est pas ça. Là, effectivement, quand ça arrive vraiment dans les villes, au milieu des manifestations, que ça gêne. La gauche institutionnelle, syndicale, etc., ça dérange un peu tout le monde, finalement. Pas seulement la droite, mais aussi la gauche plus légaliste, plus classique. Là, il y a une franche hostilité. Oui.
Et peut-être une question que j'ai envie de poser, mais alors je ne sais pas si tu as les moyens d'avoir la réponse, mais c'est vrai que c'est une question dont il m'intéresserait d'avoir la réponse, c'est... Enfin, c'est plutôt dans son développement, parce que je me doute un peu de la réponse oui ou non, mais c'est plutôt le développement qui m'intéresse, c'est en gros... Un Black Bloc qui, quand il reste dans un espace un peu folklorique, comme tu dis, une ZAD ou bon, des trucs à l'étranger, etc. Et un Black Bloc, par contre, quand il touche en plein cœur de Paris, etc., on confie peut-être pas forcément le traitement médiatique de ce sujet aux mêmes personnes, aux mêmes journalistes. Et est-ce que rien que, par exemple, d'avoir un sujet qui est traité par des journalistes, bon, je vais employer un terme un peu sens commun, mais un journaliste un peu périphérique, ou par des grands journalistes, ou par en tout cas des gens qu'on... Et là, je parle même pas forcément au niveau télévisuel, mais enfin même au niveau journal papier ou web, il y a des chroniqueurs spécialisés dans les mouvements sociaux, machin, qui vont traiter des sujets, alors qu'à l'inverse, il y a des journalistes, peut-être des plus petits journalistes, entre guillemets, qui vont moins... voilà. Bon, est-ce que rien que le changement de producteur, déjà, d'information, peut déjà induire... des changements en fait dans le traitement et dans la manière dont on va leur laisser plus ou moins la parole, quoi.
C'est-à-dire que dans les journalistes qui couvrent les mouvements sociaux, les classiques, les grands journalistes, comme tu dis, je sens poindre un peu d'ironie dans ce terme, mais moi j'en mets, hein, parce que les grands journalistes, c'est pas toujours les meilleurs.
Hein, à Belmestre, ça vole pas très haut, par exemple.
Mais on va prendre les éditocrates, Christophe Barbier ou tous ces gens-là. Bon, il y a des spécialistes des mouvements sociaux, mais qui vont être comme les journalistes spécialisés de la sécurité, mais ça, c'est un peu une déformation professionnelle, qui vont être très très copains avec les syndicats, etc., et qui vont pas arriver, il y en a plein. Hein,
avoir le recul.
Oui, puis avoir une grille de lecture qui soit autre que qu'un schéma organisationnel et hiérarchique, quoi. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un Black Bloc, mais quoi, c'est des factions radicalisées de la CGT, ou alors c'est des flics infiltrés, ou c'est des provocateurs d'extrême droite. Donc ils n'arrivent pas à comprendre. Donc quand on ne comprend pas un truc, c'est mieux de le diaboliser, de l'invalider directement. C'est plus simple. Effectivement, ce qui a changé pas mal depuis la loi travail, puis maintenant, depuis tout le monde peut filmer, etc., qui est beaucoup plus aussi d'agences de presse en ligne et tout ça, il y a des journalistes vraiment de terrain, comme j'ai cité mon ami, par exemple, Laurent Bortolussi de Line Press, ou Clément Lanneau, qui a également son agence, j'ai oublié le nom, mais qui fait beaucoup d'images. Ce sont des gens qui sont pas des pontes du journalisme, entre guillemets. C'est pas l'aristocratie journaliste.
C'est Elle Presse ou Warzone Presse, non, je sais plus. Clément Lanneau.
Désolé Clément, si tu m'entends. Mais je trouve qu'ils travaillent très bien. Ça, ces journalistes, eux, ils sont vraiment de terrain. Ils comprennent ce que c'est qu'un Black Bloc. Ça fait des années qu'ils suivent ça. Et eux, c'est le terrain. C'est pas les bureaux des apparatchiks syndicaux. Désolé, on peut être syndicaliste sans être apparatchik syndical, mais ça existe quand même. Ils sont pas dans les bureaux c'est pas ça leur source. Eux, ils sont sur le terrain, entre les CRS, les manifestants, etc. Donc, je pense qu'en fait, ils connaissent mieux, même si c'est pas, comme tu disais ironiquement, des grands journalistes. Effectivement, on voit par exemple sur, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais une manipulation médiatique absolument honteuse, enfin dans laquelle les médias ont plongé, une manipulation du pouvoir à l'époque, en 2016, qui racontait que l'hôpital Necker avait été attaqué par des Black Blocs. Je ne vais pas développer ici, mais c'est complètement faux. Je pense que les auditeurs ici le savent. Finalement, celui qui a démonté ça, justement, c'est Laurent Bortolussi de Line Press, qui lui était sur le terrain, vraiment filmé, vraiment vu ce qui s'est passé. Mmh. Et il comprend très bien que s'il y a des affrontements, ce n'est pas d'ailleurs devant l'hôpital Necker, mais c'est latéral, mais peu importe, effectivement, les projectiles qui partent en direction de l'hôpital, lui, il sait comment ça marche. Une manif, il sait que les gars, ils visent des forces de l'ordre. Il ne dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais il sait que c'est pas l'hôpital qui est attaqué. Et tandis que les grands journalistes qui sont.
Sur leur plateau.
Sur un plateau, là, les journalistes de plateau qui sont complètement en dehors des réalités.
Complètement
déconnectés, ils ne savent pas comment se passe une manif. Et puis en plus, quand tu es loin du terrain, c'est tu entends ce que tu as envie d'entendre, tu as envie de raconter ce que tu as envie de raconter. Donc le récit de hordes de barbares qui attaquent un hôpital pour enfants, le lendemain en plus d'un attentat, enfin d'une tuerie, du meurtre de deux policiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, par un fondu islamiste à Manonville, et il se trouve que le gamin était justement dans cet hôpital Necker. Donc alors, ça a été récupéré par le pouvoir, ils attaquent l'hôpital.
Il y avait Valls qui était venu sur place, je crois.
Mais c'est complètement... Voilà, c'est vraiment... grandes opérations de propagande politique et médiatique qui n'a jamais eu lieu en France ces 20 dernières années. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est démonté par des petits journalistes, entre guillemets. Et les grands, comme tu dis, ils ont envie de croire ça, ils le croient. C'est parfait.
Après, avec ce genre de désinformation, au final, le démontage a toujours beaucoup moins d'audience que le montage. C'est un peu le problème.
Il y a encore, je le cite dans le bouquin, mais par exemple, il y a un expert en sécurité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, expert en sécurité. Je crois que le gars, il est un consultant en sécurité, il a une boîte de sécurité, donc il a intérêt de dire qu'il y a de l'insécurité. Si moi, je vends des trucs de sécurité, je ne vais pas dire « Ah non, mais tout va bien, vous êtes en sécurité, ce n'est pas la peine de faire appel à mes services. » Donc évidemment, le gars, avec forcément une mauvaise foi invraisemblable, Guillaume Fard, il s'appelle, sur BFM, sans arrêt, encore maintenant, il dit l'hôpital, les Black Blocs, virgule, qui ont attaqué l'hôpital pour enfants Necker, faut bien dire pour enfants quand même, parce que c'est le bolchevique avec les couteaux entre les dents ou les sorcières juives qui mangent des enfants, enfin c'est complètement, c'est absolument incroyable quoi.
C'est un véritable procès de Moscou.
C'est un procès de Moscou, oui, c'est un procès de Moscou.
Dans les autres experts qui sont un peu régulièrement invités aussi pour en parler, il y a Éric Delbecq, qui est l'auteur du livre Les Ingouvernables.
L'auteur du livre Les Ingouvernables, qui est vu. C'est intéressant à lire comme bouquin parce que, point de vue sécuritaire, du point de vue du pouvoir, il est toujours intéressant à lire. Il faut le lire, faut pas. Mais il faut dire clairement, justement, là, faut pas se présenter sous une espèce d'objectivité, lui, pas journaliste, mais d'un chercheur ou d'un expert. Non, c'est ça qui m'énerve un peu. C'est que moi, je prétends pas à l'objectivité journalistique, que ces experts ne prétendent pas à l'objectivité d'experts. Non, quand t'as une boîte de sécurité et que tu parles de l'insécurité, t'es pas, y a pas d'objectivité, évidemment. Il y a même un conflit d'intérêts. Et bon, Delbecq, c'est pas inintéressant son bouquin, mais c'est un point de vue de comment on peut faire de l'État, comment on peut faire pour mettre fin à ce phénomène, pour le réprimer ou en tout cas le faire taire. Quoi.
Là où je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est que Delbecq, c'est intéressant à lire en fait pour voir donc le point de vue qu'a l'État sur ses problèmes, sur les problèmes de l'État. Mais du coup, en fait, finalement, quand on a un grand journaliste et qu'on n'y connaît rien, à part Delbecq ou des gens comme Delbecq, on n'a pas accès à grand-chose, en fait.
Faudrait qu'ils lisent mon bouquin, ces grands journalistes.
Si, on a tiré l'accent. Voilà.
Non, mais il n'y a pas...
Fut un temps, on n'avait pas accès à grand-chose.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que sur les Black Blocs, il y a très peu qui a été écrit. Mm-hmm. Bon, ton mémoire, il est évidemment très confidentiel. C'est plus sur le traitement médiatique. Je ne doute pas qu'il soit très intéressant, si tu veux me l'envoyer. Sinon, il y a le bouquin de Dupuis-Déry, que vous avez reçu ici.
Les Black Blocs, chez Lux.
Voilà, qui est très bien, qui a été réédité plusieurs fois, mais la première édition date d'il y a une vingtaine d'années.
On l'a chez Publico, il n'y a pas de souci.
Non, mais je sais bien, je crois même que c'est là que je l'ai acheté, d'ailleurs, la première fois, il y a longtemps, et qui m'a servi de source, entre autres. Donc il est très bien, mais c'est vrai que c'est un Québécois, donc c'est plus loin de la France, et ça résonne peut-être moins de chez nous, parce qu'il parle assez peu de la France, finalement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, sinon, quand tu tapes Black Bloc, tu as des articles de presse, tu as des petits reportages, ou parfois par-ci, par-là, tu en as un qui parle en disant trois mots, mais enfin, c'est pas... On ne laisse pas beaucoup développer de pensée ou de propos, simplement. Et si on veut... Mais même c'est ça que je trouve, c'est que d'un point de vue du pouvoir, de la police, ou d'un point de vue... Mettons d'un point de vue du pouvoir, il vaut mieux essayer de comprendre un phénomène, si on veut le faire taire, que de raconter... Alors évidemment, raconter n'importe quoi, c'est pratique aussi, mais s'ils veulent vraiment venir à bout de ce phénomène, il ferait mieux d'essayer de le comprendre que d'essayer. Alors j'espère que ce qu'ils font croire aux autres, ils le croient, ou au grand public, ils le croient pas vraiment, parce que sinon ils sont pas prêts de se débarrasser du phénomène. Si vraiment ils... Mais ils devraient lire ce que font d'ailleurs les anciens RG. Eux, ils savent, ils lisent les flics, en fait, ça, c'est bien ce que c'est que le Black Bloc, parce que les services de renseignement, par exemple, ils vont regarder sur leur site, prendre leur prospectus, etc. Ils ont une bonne connaissance des et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me placer de leur point de vue, c'est d'expliquer leur logique. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est vraiment une question très intéressante, ça. Il s'agit de dire c'est quoi la finalité, est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce que, voilà, ça correspond à quoi, et essayer de comprendre le phénomène qui est très très, dont la réalité est très très loin de ce qu'en perçoivent les gens, hein, le grand public, encore une fois. Ils croient que les Black Blocs, c'est vraiment des méchants qui vont tout casser partout où ils passent, qui saccagent des villes entières, enfin bon, c'est Attila.
Et d'ailleurs, il y a deux excellents chapitres, Tout le monde déteste la police,
oui,
dans ton livre, et Tout le monde déteste les médias.
Voilà. C'est deux slogans. C'est d'abord devenu tout le monde déteste la police, après tout le monde déteste les médias.
Et il y a aussi le chapitre sur les banderoles. Et j'ai bien aimé que tu as repris la réponse. Les flics fils de pute et les putes qui répondent.
Pute, ouais, c'est ça. Alors, c'est, alors, j'ai envie de le raconter moi-même. C'est donc CRS fils de pute et il y a un petit graffiti avec les CRS ne sont pas mon office, signé les putes. Ouais, moi, ça me fait marrer. Il faut un peu d'humour aussi. Hein. C'est pas parce qu'ils sont habillés en noir qu'il faut tout voir en noirceur comme ça. Il peut y avoir de l'humour aussi, y compris dans les milieux radicaux.
Bien. Alors, je voudrais qu'on rappelle à quel point on a affaire à des militants idéologiques.
Oui.
Idéologiquement structurés, des militants politiques, et surtout qui se réclament de l'anarchisme.
Mais entre autres, oui.
Voilà.
Enfin, essentiellement, oui, c'est vrai.
Bah, alors,
oui, vas-y.
Je vais lire ton passage à ce sujet, qui est page 34, que j'ai savouré, bien sûr. Alors.
Je vois qu'il y a du boulot, hein. C'est sérieuse, Mariana.
J'essaye. Alors, mais la plupart des Black Blocs se réclament surtout et avant tout de l'anarchisme, sans pour autant toujours connaître les subtilités et l'histoire de ce qui fut le courant dominant du mouvement ouvrier jusqu'à la révolution bolchévique. Être anarchiste, me confie un jeune Black Bloc, c'est d'abord une révolte brute et radicale, comme un autoritarisme injuste et inégalitaire. Inutile de s'attarder sur l'idéologie anarchiste qui est bien plus connue du grand public. Précisons néanmoins quelques points. Anarchie, anarchia, signifie en grec sans autorité. L'anarchisme n'est donc pas synonyme de chaos, mais de société organisée sans dirigeant et égalitaire. Merci.
Je vais pas en rajouter. Je pense pas que c'est moi qui va prendre l'anarchisme aux auditeurs de cette radio, mais c'est des choses assez peu connues.
Je dis dans un livre grand public, parce qu'il est grand public ton livre.
Oui, tout à fait, il est grand public. Hein. Il peut intéresser les militants, mais il s'adresse au-delà des militants.
Hein. Oh, tout à fait. Et d'ailleurs, à Publico, j'ai vu une dame, bon chic, bon genre, l'acheter parce qu'elle avait lu, elle avait compris le sous-titre Vérité et idées reçues.
Bah, très bien.
Et je lui ai posé la question, pourquoi vous l'achetez ? Elle me dit, je veux savoir ce qui se passe. Parce qu'elle dit, mon fils veut en faire partie.
Ah, d'accord.
Voilà, donc j'ai trouvé intéressant. La maman s'est précipitée à Publico.
Elle veut essayer de comprendre son fils, c'est bien.
Voilà, donc comme quoi, on peut venir au Black Bloc par les enfants. Alors, la moyenne d'âge des Black Blocs, tu le dis dans ton ouvrage, très jeune, et on prend sa retraite aux alentours de 30 ans, parce que c'est très physique.
C'est très physique, oui, ça ne plaira pas à Macron, mais c'est la retraite à 30 ans. Enfin, là, peut-être qu'ils ont vécu à la retraite, mais oui, enfin, je dis 30 ans, c'est même parfois avant. Bah, c'est très physique, c'est très fatigant. Bon, et c'est quand même très réprimé, hein. Les gardes à vue, les condamnations de la prison, ferme avec du sursis. Enfin, bon, c'est vrai qu'au bout de 10 gardes à vue, quelques coups de matraque, puis c'est très usant. Donc, il y en a qui passent à autre chose. C'est avant les joueurs de foot, hein, la retraite, chez les Black Blocs.
Je pense qu'il faut quand même apporter peut-être une précision sur ça. C'est aussi que les Black Blocs, ils ont évolué dans leur, on va dire, origine manifestante. Et que ce n'était pas vraiment les mêmes sociologies. Si on prend Seattle, si on prend Gênes, si on prend Strasbourg, le sommet de l'OTAN, si on prend des G20, parce qu'il y a eu, par exemple, il y a un G20 à Évian en 2003, il y en avait eu un. Enfin, voilà, il y a quelques... Y a, dans les milieux altermondialistes, par exemple, souvent, c'est des gens un peu plus âgés. Mais un peu plus organisés aussi. Après, il y a eu un moment de très jeune avec la loi travail.
Oui.
Où là c'était beaucoup de lycéens, beaucoup de jeunes étudiants. Donc là, c'est effectivement il y a cette phase très jeune. Et après, il y a une phase un peu de remixé.
Voilà.
Plutôt de mixage avec les gilets jaunes. Là, il y a eu un peu plus âgé. Quoi.
Et des milieux beaucoup moins militants au départ.
Voilà, des milieux moins militants. Et c'est là aussi qu'on a vu que du coup. Quand il y a eu ce mélange avec les gilets jaunes et que ça a donné un peu bloc jaune, bloc noir, un peu le mélange des deux, c'est là où aussi c'est important de dire, effectivement c'est une méthode de manifestation, une méthode militante qui a son origine dans l'anarchisme, mais qui s'est maintenant étendue un petit peu à tout et n'importe quoi. Il y a même Alors, je sais pas si on peut dire, il y a eu des Black Blocs d'extrême droite, on a qualifié des militants d'extrême droite utilisant cette méthode comme étant des Black Blocs d'extrême droite. Il y a par exemple la journée jour de colère qui avait été qualifiée comme ça par un certain nombre de...
Les manifs pour Lola récemment, je t'interromps, mais à Paris, là, moi j'y étais pas, hein, mais j'ai vu des journalistes, photographes et tout ça. petits journalistes hein, qui y étaient, justement. Et là, pour le coup, ils parlaient vraiment de... C'est des gens qui connaissent le Black Bloc, hein, des gens de terrain qui parlaient de Black Bloc d'extrême droite, avec effectivement les mêmes codes repris, les mêmes pratiques en noir, masqué. Bon, disons, c'est beaucoup plus rare quand même, les Black Blocs d'extrême droite.
C'est beaucoup plus rare, mais vu que ça se diffuse, on va dire, la méthode du Bloc, quoi, c'est un truc, ça a été pris autant par les Gilets jaunes que par l'extrême droite. Et même du côté de l'extrême gauche, c'est pas que des anarchistes dans le Bloc,
il y a aussi des... Non, c'est l'idéologie dominante. Ce qui rassemble tout le monde, c'est l'anticapitalisme, grosso modo. Et le courant dominant, ça me semble être l'anarchisme, comme ça, de ces prophètes de statistiques précises, mais c'est quand même ce qui semble dominant, c'est ce qu'on voit un peu dans les tags, les entourés, choses comme ça, on en voit beaucoup quand même. Après, il y a aussi des communistes, soit libertaires, soit plus orthodoxes, il y a des marxistes-léninistes, il y a même des Maoïs qui se réclament du maoïsme, parce que moi je trouve personnellement assez curieux, mais bon, il y a des féministes radicales aussi. Bon. Mais le point commun, c'est l'antifascisme et l'anticapitalisme. Ça rassemble à peu près tout le monde dans le Bloc. Quoi.
De toute façon, on va aborder le chapitre sur les gilets jaunes, qui est très bien développé dans ton livre, dans une autre partie de l'émission. Mm-hmm. Là, ce qu'on va faire, c'est peut-être une pause. On va demander à Jean-Mi de nous passer une musique de pause, et on va revenir en deuxième partie sur l'histoire. Non, on a fait l'histoire et les idées.
Sur les idées, on va continuer sur les idées.
En deuxième partie.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insulté, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Vincent pour Dans la tête, son ouvrage Dans la tête des Black Blocs, vérité, idées et reçues, publié chez les éditions de l'Observatoire. Et nous avons dédié cette émission à Clément Méric.
Oui.
Alors, les Black Blocs, anticapitalistes avant tout.
Voilà, c'est ce qu'on disait avant la pause, effectivement, que c'était un peu le point, le nœud central qui liait un peu... tous les participants, on va dire, du bloc, bon, Peut-être pas dans ceux d'extrême droite, tu me diras.
Non, enfin, on parle du mais Black Bloc classique, qui est quand même d'extrême gauche. Ouais, l'extrême droite est le singe de l'extrême gauche, ça c'est voilà. Bon, mais...
et c'est vrai que du coup, ce prisme de l'anticapitalisme, on peut aussi l'aborder comme un peu la concurrence dans l'anticapitalisme, parce qu'en fait, effectivement, le Bloc s'inscrit dans un espace qui est approprié, ou en tout cas que les syndicats essaient de s'approprier comme étant le leur, c'est-à-dire l'espace de contestation dans la rue. Et du coup, il y a cette espèce de concurrence qui se crée en fait entre syndicats et Black Bloc. Et c'est un truc dont tu traites dans ton bouquin. Toi.
Oui, alors je reprends juste ce que tu dis. C'est pas une... Je dirais pas que c'est une concurrence dans l'anticapitalisme, parce que les syndicats, à part la CNT qui est tout petit, et puis plus largement peut-être solidaire, mais sinon aucun syndicat ne se dit anticapitaliste. Même pas
la base la CGT. De la CGT a tendance à se dire anticapitaliste.
La base et certaines branches comme Infocom qui le dit ouvertement.
Voilà.
Mais disons que, et qui se réclame l'anarcho-syndicalisme, donc dans l'ensemble. Si on pose la question à Philippe Martinez de but en blanc comme ça, je suis pas sûr qu'il dise je suis anticapitaliste, je suis pour faire la révolution, je crois pas. Donc, mais dans l'espace de contestation sociale, c'est sûr que c'est une concurrence, c'est comme ça que le perçoivent les syndicats, absolument. Et en fait, c'est peut-être les syndicats qui sont le plus gênés par l'émergence du cortège de tête et du Bloc, c'est qu'ils se voient contester la légitimité du monopole des luttes sociales, en fait. Qu'ils avaient avant, plus ou moins, enfin, c'était quand même, on allait défiler derrière la CGT, qui était la cour de transmission du Parti communiste, qui était forcément le seul parti révolutionnaire et pas autre chose, sinon était un affreux déviationniste, révisionniste ou je ne sais quoi. Et c'est ça qu'il aurait contesté maintenant. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin, les syndicats, en fait, d'invalider totalement toute autonomie du Bloc ou toute pensée propre au Bloc ou toute... Justement, ce que tu disais, toute caractéristique militante et idéologique du Bloc, il faut en faire des casseurs. Les syndicats sont parmi les plus virulents contre le Bloc et parmi ceux qui disent le plus n'importe quoi en fait. Ouais. Parce que c'est eux finalement que ça gêne le plus.
Et oui, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un débat qui est un peu omniprésent à l'extrême gauche, c'est de dire il faut tolérer toutes les méthodes de lutte. Bon. Il y a ce qu'on fait dans les débats, mais il y a aussi dans les faits qui s'en prend physiquement à qui. Au final, c'est souvent les syndicats qui se retrouvent à jouer les sandwichs avec la police pour coincer les blocs dans les manifs.
De moins en moins quand même, parce que raconte dans le bouquin, il y a eu, je me souviens plus de la date, je crois que c'est en mai 2016, moi j'ai vu le tournant quand s'est constitué le cortège de tête. Bon, ces auditeurs ici savent ce que c'est que le cortège de tête, donc je n'ai pas développé, mais au début, c'était les syndicats, la CGT en tête qui marchaient devant, et puis les autres, les autonomes, les totos, là, tous derrière, là, vous faites mumus derrière, mais bon. Et il y avait parfois des affrontements, le SO de la CGT, bon...
Il y a eu un certain nombre de fois quand même où le SO de la CGT a mené à l'interpellation de militants anarchistes,
voire leur taper dessus, j'en ai vu.
Ou même de la collaboration avec la police dans le but de...
Et là, y a ce jour-là, je crois que c'est 18... Non, c'est pas 18 mai 2000, enfin, je sais plus la date. En 2016, ce jour-là, moi, j'ai vu les tout un tas de gens, alors certains cagoulés, d'autres pas, la plupart pas d'ailleurs, des inorganisés, autonomes dans le sens autonome de l'organisation du cortège, qui ont débordé en fait le SO de la CGT, ils sont passés devant et là il y a eu baston sévère.
Il y a eu aussi un jour qui a un peu. C'était un 1er mai. Alors retrouver c'est lequel ? Je sais pas si c'était pas 2021, je sais plus exactement.
2019
mais c'est...
plutôt ?
Non.
Oui, c'était l'agression de la CGT ?
Oui, enfin,
l'attaque de la CGT, c'est 2021.
Dite agression de la CGT, je préfère dire.
Il y a quand même eu. Il y a eu des violences, disons.
Contre un
camion de la CGT. Et il y a eu quelques blessés.
Voilà, mais ça pour moi, c'est un jour qui est un peu emblématique du sujet que j'ai abordé, volontairement un peu polémique, mais parce qu'il avait même fait polémique à la FA, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on en reparle sur la radio de la FA de ce jour-là, parce que donc effectivement c'était un jour où c'était le 1er mai, donc 1er mai qui est de manière récurrente, on va dire, un lieu de
familial.
Familial, et donc comme tout repas de famille, on se tape dessus. Et donc du coup, ce 1er mai, suivant la coutume des précédents, en gros, il y avait eu des affrontements entre, ou en tout cas des collaborations policières entre les services d'ordre syndicaux et la police, qui avaient mené à l'interpellation de quelques militants, quelques heures avant d'arriver sur Place de la Nation. Et effectivement, une fois arrivé à Place de la Nation, il y a eu de nouveau des altercations entre le SO, la CGT, et des militants autonomes qui ont abouti à des affrontements, et en plus la CGT qui s'est retrouvée prise de court un petit peu, quoi, parce qu'en fait elle s'est fait déborder, largement d'ailleurs, ce jour-là. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que dans leur panique de se faire agresser donc par des militants autonomes, en fait, ils ont dévié du parcours qu'ils avaient prévu donc avec leurs amis les policiers, et en fait, ils se sont retrouvés dans un barrage avec des camions grillage donc de la gendarmerie, et ils pouvaient pas passer. Et donc ils étaient coincés entre la gendarmerie qui dit bah non, on va pas lever les grillages pour votre camion, faites demi-tour, et de l'autre côté les autonomes qui leur tapaient dessus parce qu'ils étaient fâchés d'avoir eu leur copain interpellé 2 heures avant. Et alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les syndicalistes? Ils ont dit bah c'est un complot, voilà, c'est bien la preuve
qui nous a empêchés
voilà, la police de mèche avec les militants autonomes du Black Bloc qu'elle a interpellé 2 heures avant nous a tendu ce piège pour ça. Bon,
alors, c'est ils vont même plus loin que ça, parce que ils ont même dit, c'est complètement ridicule et complètement délirante, mais enfin assez habituel, presque une tradition, j'allais dire, à la CGT. C'est les vestiges staliniens de la CGT peut-être, mais c'est vrai que quand Martinez dit c'est des militants d'extrême droite, en vrai, bon, enfin, oui, on va arrêter.
Ils avaient sorti un argument qui est pas mal, je pense, c'est que il y avait des militants autonomes qui leur avaient dit retourne bouffer des merguez. Et le mec, c'était Amar, là, je crois, il s'appelle, qui était allé sur les plateaux télé dire, voilà, ils nous ont dit d'aller manger des merguez, et ça, c'est l'extrême droite qui nous dit d'aller manger des merguez, c'est bien les militants d'extrême droite qui nous ont agressé.
Ils avaient dit ça, et puis il y avait des grossièretés, je vais pas répéter ici, mais non, c'est sexiste, ou...
Alors que le SOCGT n'est jamais sexiste, lui.
Non, jamais.
Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du SOCGT.
Non, mais ça, bon...
Ou de l'homophobie, non.
Moi, je sais pas qui est sous les cagoules, après, bon, oui, il y a des insultes comme ça qui fusent, qui sont pas forcément très élégantes, et qui peuvent être homophobe ou sexiste, et pas forcément terrible. Après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Toi, tu dis que ça a mené à l'interpellation de
Ah ben ça, c'est factuel, les vidéos, je les ai encore.
Non, ce qui est sûr, c'est que... Non, mais c'est un peu plus compliqué, parce que en gros, depuis que la CGT, le vaisseau de la CGT et les syndicats ont perdu le contrôle des manifs, il y a eu une espèce de deal avec les autonomes et les gens du bloc. C'est OK, on vous laisse passer devant. Bon, vous avez vos pratiques, vous pétez les bombes, faites ce que vous voulez, vous affrontez avec les flics, mais nous, on ne viendra pas vous défendre. Ne demandez pas non plus de venir vous défendre, nous, on protège notre cortège. Et les gars, ils vont se livrer à des violences contre les banques ou les forces de l'ordre et tout. Et après, ils ont voulu ce qu'on m'a dit. Hein.
Moi, se replier, pas,
je vais être honnête, j'étais pas. Donc, mais ils ont voulu se replier dans les cortèges syndicaux. Et là, le SO, il dit bah non, on peut pas. Nous, on a aussi des gens plus âgés, peut-être des familles. Non, mais.
C'est familial. Comme familial. François.
Non, mais on peut comprendre aussi qu'eux, ils disent vous faites ce que vous voulez devant. De toute façon, ils ont perdu. Hein. Voilà, ils reconnaissent leur défaite. Vous faites ce que vous voulez devant, mais ne nous demandez pas après d'aller en plus vous protéger de la police. Il faut aussi être cohérent, je trouve. C'est-à-dire que si tu vas attaquer des banques et tout ça, mais enfin, ils ne sont pas faits non plus, je crois, interpellés par la CGT et remis aux policiers. C'est un peu plus compliqué. C'est qu'ils n'ont pas voulu qu'ils rentrent dans leur cortège pour ne pas risquer qu'il y ait des blessés. Parce que des militants syndicaux laissent faire des gens qui ont des méthodes illégales ou violentes et disent chacun ses pratiques, c'est une chose. Mais après, il faut aussi qu'à l'inverse, ceux qui veulent aussi défiler de manière plus tranquille puissent aussi le faire, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est emblématique d'une rivalité, même d'une franche hostilité très très ancienne entre les autonomes et les syndicats plus officiels comme la CGT. Je sais pas exactement ce qui... C'est vrai que de fait, s'ils ont empêché de rentrer dans le cortège et de se fondre dans le cortège, à mon sens, ça peut se comprendre, mais ça a pu aboutir effectivement à l'arrestation d'autres de militants autonomes puisqu'ils ont empêché de réfugier dans le cortège. Mais là-dessus, par exemple, il y a la CNT qui se réclame aussi de l'anarcho-syndicalisme, qui elle aussi, dans un communiqué, a affirmé sa solidarité avec la CGT.
Oui, tout à fait.
C'est un jour noir pour le syndicalisme en France. Donc, c'est pas tous les jours que la CNT se solidarise de la CGT. Donc je veux dire, bon, là, tu as ton point de vue, mais c'est peut-être un peu plus complexe. En tout cas, c'est pas un point de vue unanimement partagé.
Ah non, bah ça.
Ou chez les anarchistes.
De toute façon, je pense que oui, effectivement, moi, mon point de vue, je le précise, c'est vrai au cas où, mais j'ai jamais eu la prétention de dire qu'il était partagé par d'autres gens. Non, mais c'est vrai que c'est un peu l'éternel débat, en fait, entre les syndicalistes et les militants, peut-être autonomes ou quoi, mais le principe du bloc, qui s'est inclus, entre guillemets, un peu dans la manière dont la méthode s'est pratiquée au fil des années, c'est que, effectivement, les militants qui pratiquent de l'illégalisme le font de manière anonyme et ont pour intérêt de pouvoir se désanonymiser dans la foule et ainsi d'éviter la répression policière. Donc si, en tant que syndicaliste, tu empêches ce phénomène d'advenir, de fait, tu empêches donc la méthode de fonctionner et tu participes, d'une manière, à l'interpellation des militants, parce que le fait que tu ne les laisses pas rentrer dans le cortège, bah, ça fait que pour la police, c'est très simple. Il y a une ligne de mecs avec des brassards rouges et des crânes rasés qui tient donc la ligne. Et il y a eux, donc la police, alors, et entre les deux, bon, il y a,
ce qui est intéressant,
il y a les militants à interpeller. Donc,
ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les toutes dernières manifs, il y a eu très très peu de Black Bloc. Là, une rentrée sociale est extrêmement molle, d'ailleurs. J'ai du mal à comprendre personnellement. Mais...
Beaucoup de répression.
Là, par contre, j'ai vu des images. J'en parlais avec Clément Lanneau, qui lui observe ça de, très attentivement, parce qu'il est là tout le long de la manif. Et il me disait que ce qui avait beaucoup changé, c'est que le SO de la CGT, au contraire, ils se mettaient en ligne maintenant. Ouais. C'est les plus jeunes déjà. Ils se mettent en ligne pour empêcher les flics d'avancer et d'aller choper les mecs du bloc. Il y a une manif le 30 septembre de rentrée sociale. Après, il y a eu la manif de appelée par la France insoumise.
Tout à fait.
Et alors, il n'y a pas eu beaucoup de Black Bloc, mais il y a eu un petit peu. Et là, au contraire, ils ont protégé et laissé rentrer. Et ça, c'est très nouveau. C'est une autre génération, c'est les plus jeunes. Non, mais c'est une évolution
à voir si c'était un événement comme ça, isolé.
Des images que je t'invite à regarder parce que c'est assez étonnant, justement, par rapport à ce que tu décris, qui est effectivement plutôt l'habitude.
Voilà.
Mais là, c'est des beaucoup plus jeunes. Je ne sais pas qui est dans le service. Je sais pas si c'est CGT ou autre chose.
On verra le 10 janvier.
On verra le 10 janvier.
Il faudrait déjà que on a reculé au 10 janvier
parce que
le premier Français va au Qatar pour assister à la demi-finale. Hein. Il faut le préciser aux auditeurs au cas où ça leur a échappé.
Il va aller au Qatar. Il l'avait dit. Il tient ses promesses. Hein. Il avait dit, j'irai s'ils vont en demi-finale. Donc il tient ses promesses. C'est formidable. Le Qatar. J'avoue, je vais faire mon mea culpa. J'aime trop le foot pour boycotter. Donc je vais regarder la demi-finale. Je vais pas aller au Qatar. Il serait qu'il aurait pu la regarder devant la télé tranquillement. Après, il est un peu obligé de faire semblant d'aimer le foot. Tous les politiques sont obligés de faire semblant d'aimer le foot. Et des grands supporters de foot depuis toujours. Alors, ils deviennent supporters du PSG depuis toujours, tout d'un coup. C'est un peu
ridicule. Oubliant les conditions de son rachat.
En oubliant quand même, les milliers d'ouvriers qui sont morts sur les chantiers.
6500. Et sachant qu'on a la vice-présidente du Parlement européen et quatre députés européens qui sont en prison en Belgique pour corruption. Mais bon, c'est la pointe émergée de l'iceberg.
C'est la pointe émergée de l'iceberg. Je fais une petite parenthèse, parce que je connais bien la Grèce. J'ai fait pas mal d'articles et de sujets aussi sur les anarchistes en Grèce, Exarchia, tout ça, je connais bien. Donc, je connais bien la Grèce et je sais ce que sont les socialistes grecs.
Ah oui.
Le PASOK. Qu'ici, les gens savent à peu près ce que c'est. Enfin, qui était le parti d'opposition principale à la dictature, etc. Puis c'est une dynastie des papes Andréou, qu'en bourgeoisie. Enfin, c'est même fouille, c'est une dynastie. Enfin, c'est papes Andréou. Il y a eu le grand-père, le fils et le petit-fils qui ont été premiers ministres. Et sinon, à droite, tu as les Karamanlis, c'est comme ça, la grecque, qui sont à droite. Puis là, tu as les Mitsotakis aussi, dans un temps qui arrive. Là, c'est Mitsotakis, Tsipras qui est arrivé comme ça, comme un accident. Mais voilà, c'est pas tout à fait un hasard que ça soit une. Alors, il y a aussi son compagnon qui est italien. Mais je faisais une petite parenthèse. Et c'est probablement, la pointe émergée de l'iceberg.
Oui. Alors, je vous conseille de relire ou de lire Nos chers émirs de Malbruno et de.
Oui.
Et de.
Chez nous.
Ça, tout est expliqué, déjà. Et d'aller sur le site de Blast. Que nous avions reçu parce qu'ils étaient attaqués par Bernard-Henri Lévy.
C'est mon ami Bernard Nicolas qui avait
ils avaient fait une super enquête sur le scoop.
Inaperçu
et qui maintenant prouve qu'il avait bien raison et qu'il était même en dessous de la réalité.
Il était probablement en dessous de la réalité.
J'étais la seule à les avoir reçus avant le tribunal.
Bravo.
Oui. Mais merci à François et à Samuel et à toute l'équipe qui m'aide, et à Jean-Michel aussi, qui m'aide à recevoir les gens qui méritent d'être reçus. Et donc, l'émission est sur le site du groupe Louise Michel, vous pouvez la réécouter, il n'y a pas de souci. Voilà, et ils avaient gagné leur procès, bien sûr. Mais ça, je n'en doutais pas une seconde.
Non.
Et d'ailleurs, ça avait fait bien rire le président du tribunal, parce qu'il leur avait posé la question de savoir si la presse les suivait. Ils avaient dit « Oh, nous avons eu une invitation à Radio Libertaire ». Voilà, comme quoi nous sommes la presse, nous aussi. Alors Samuel, avant la pause musicale,
Samuel, réembraye sur 5 minutes de digression, trouve un truc.
Non,
c'est une blague, je te taquine, je te taquine. Non mais parce que si je peux dire un truc du coup.
Oui, bien sûr, je t'en prie.
Voilà. Moi, je trouvais intéressant, effectivement, peut-être de replacer dans le temps long ce qu'on était en train de dire, parce que du coup, c'est intéressant ce que tu pointais tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que tu mentionnais que c'était Clément Lanneau qui t'avait un peu filé l'info. Bon, Clément Lanneau, on peut lui faire des reproches, mais enfin, il est sur le terrain.
Il est sur le terrain.
Il filme le truc, il est en face. Donc oui, mais ce qui est intéressant peut-être, c'est de replacer ça dans le temps long, effectivement, des rapports entre syndicalistes et militants autonomes. Bon, c'est un rapport qui est quand même historiquement conflictuel.
Très.
C'est pour ça que j'ai un peu du mal à imaginer que ça se normalise de ce genre de problème, mais pourquoi pas.
Je sais pas, faut voir si c'est un point de bascule ou si c'est un événement
le
isolé
10 janvier.
Ou si c'est annonciateur.
On a tous rendez-vous le 10 janvier dans la rue, parce que les retraites vont être annoncées et que la génération, nos générations sont concernées, toutes. Bon, pas Samuel, il est trop jeune, mais pas François.
Bah, il, le
sera il a réussi à passer à travers les gouttes à une année près.
Ben, c'est avant le coup près.
Oui. Voilà. J'aimerais bien aller à la retraite quand même un jour, moi, ceci étant.
Oui. Voilà, donc nous on est concernés, donc on va aller sur le terrain et donc on verra pour les Black Blocs. Et Thierry sera là pour filmer, bien sûr, comme d'habitude, parce qu'il a réussi à placer le seul documentaire qui donnait la parole aux Black Blocs dans la.
Qui était Nous sommes tous des casseurs, le titre, voilà,
c'est
qui est trouvable sur Internet.
Ouais.
Effectivement.
Sur le site d'envoyé spécial.
Voilà. Mais du coup, donc pour revenir un petit peu sur le sujet de la répression. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi. Donc ça, je ne sais pas si tu l'évoques dans ton livre, mais
oui. Un petit peu, mais enfin, on peut développer plus. Parce que...
Voilà.
Oui. Vous avez 10 minutes.
Bah non, mais je pense qu'en fait, je pense qu'on peut commencer sur ça et que ça nous permettra de faire une excellente transition vers les gilets jaunes. Donc
voilà.
Ça va être très bien.
C'est pour ça que j'ai dit que vous avez 10 minutes.
Mais du coup, oui, bah, y a clairement un avant et un après gilets jaunes. Déjà pour le Black Bloc, et je pense que c'est peut-être ce que tu évoques toi dans ton,
oui,
dans ton
oui.
bouquin directement.
Ben, c'est-à-dire que quand le Black Bloc c'était 200, 300 personnes, parfois un peu plus quand il y a renfort de l'étranger, ben, déjà 200, 300 ça suffit pour
c'était
pour,
1200 pour 1er mai 2018.
Ouais, c'est
crois.
Le record.
Ouais, le record
absolu, je crois. Ouais.
Le record sans gilet jaune.
Le record sans gilet jaune, c'est ça, parce qu'il y a eu le 16 mars.
Il y a
mars,
eu 1500 pour le 16 mars.
2019, il y a eu, selon Gassaner, il y avait eu 1500. Record sans
oui, c'est toujours les chiffres du ministère là. Parce que oui. Nous,
bah, ouais, après c'est difficile de
c'est voir. Difficile pas, d'en avoir d'autres hein, de toute façon.
C'est difficile d'en avoir d'autres, mais je pense qu'ils sont pas trop loin de la réalité en
oui,
fait
je,
hein,
pense, je pense sur ça oui
je pense qu'ils ont ni intérêt à le surestimer ni à le sous-estimer ouais. Mais quelle était ta question, j'ai perdu le fil.
Non, je voulais que tu amorces un peu sur la manière dont tu évoques dans ton livre la jonction qu'il y a eu en fait entre le bloc et les gilets jaunes.
Alors au départ c'est un peu compliqué parce que bon personne et pas plus les milieux militants que d'autres ont vu arriver cette espèce d'ovni que sont les gilets jaunes, qui au départ relèvent plus de la jacquerie un peu désorganisée qu'un mouvement politiquement structuré. Hein.
Ouais.
Et donc ils ne comprennent pas trop les milieux d'extrême gauche. Il y en a qui sont très hostiles, ils disent oui, ils traitent ça un peu par le mépris, parfois un mépris de classe peut-être un peu inconscient, mais bon, genre ouais, c'est un peu populiste, un peu démago. C'est vrai que c'est parfois confus, c'est vrai que là-dedans il y a des personnages quand même assez peu recommandables, hein, qu'on retrouve maintenant chez Zemmour, comme comment il s'appelle, Benjamin Cauchy, je crois, ou la voyante complètement allumée. Là,
ouais, c'est vrai qu'il y a deux, trois figures.
Jacqueline Mouraud, enfin bon,
oui, voilà,
il y en a quand même des pas mal. Quand il y a le 1er décembre, je sais plus, enfin début décembre, la fameuse où il y a eu tout le bordel de autour de la
le 1er décembre, ça.
Là, tu as aussi Yvan Benedetti, donc pétiniste, antisémite, etc. Tu as des gens d'extrême droite, tu as les fameuses ouaves là, ceux qui ont agressé les militants de SOS Racisme dans le meeting de Zemmour, qui ont attaqué le bar antifasciste Le Saint-Sauveur, ça, qui arrête pas d'agresser tout le monde dans Paris, tout ça, qui sont là. Et donc, c'est pas évident de quel côté ça va basculer. La plupart sont quelques gens politisés, mais beaucoup sont apolitiques, un peu confus, on sait pas trop. Enfin, t'en as qui ont le t-shirt Che Guevara, moi je me rappellerai toujours, un gars qui a le t-shirt Che Guevara, à côté, t'as des jeunes qui font qui chantent la quenelle, enfin, c'est très confus. Et donc, ils savent pas trop au début, et donc, il y a une partie des radicaux qui disent bah on va essayer entre guillemets de récupérer ce mouvement ou de le conscientiser, de le politiser, si on appelle
ça comme on veut,
et de le structurer et de lui donner une conscience politique. Et ils ont en partie réussi quand même parce que de fait l'extrême droite vraiment militante, les figures connues ont été dégagées des manifs. Autour de l'Arc de Triomphe, justement, je crois que c'est 3 décembre ou 1er décembre. 1er décembre 2018. Il y a eu des bagarres au départ, ils ne comprenaient pas, les gens, ils se battent entre eux, les gilets jaunes. En fait, c'est pas des gilets jaunes, c'est des antifas qui se battent contre les fachos, voilà, voilà. Bon, les fachos perdent, hein. Il se passe la même chose à Lyon en février, deux mois après.
Janvier, février, c'est la grosse période.
C'est là où il y a, la charnière, et là, l'extrême droite, en tout cas, celle qui s'affiche
en tant que
telle, après, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens, hein, mais se fait, l'extrême droite militante, etc., connue, se fait se fait dégager. Et ensuite, effectivement, moi, j'ai vu des cas, là, j'en parle dans le bouquin, d'un type que, évidemment, c'est un prénom emprunt, qui s'appelle Alban, qui commençait sa carrière de Black Bloc à 45 ans. Le gars, il n'avait jamais milité nulle part. Bon, il votait quand même à gauche, un peu par habitude, me dit-il. Bon, bien sûr qu'il n'ait jamais voté à droite, d'ailleurs, mais peu importe. Hein, mais, et maintenant, petit à petit, il s'est structuré. Il se dit maintenant anticapitaliste, antifasciste, révolutionnaire, etc. C'est assez
étonnant. Pour ses autres deux enfants.
C'est assez étonnant. Ouais. Oui, exactement.
C'est un type
qui voulait s'engager dans la police un moment. Hein.
Enfin, oui, parce qu'il a fait l'armée.
Il a fait l'armée, c'est pas. Et lui, ouais, un peu. C'était un des premiers gilets jaunes dans la ville où il est, que je ne vais pas citer. Et qui a rencontré des militants d'extrême gauche. Bon, l'extrême droite, c'est pas son truc, il n'a jamais pu les blairer. Donc. Et puis finalement, l'extrême gauche, ça. Et puis là, et surtout. Beaucoup ont été séduits. Un truc qui est assez. Ils ont bien joué, hein, les Black Blocs, finalement, en termes de stratégie. Alors, ça n'empêche pas que ça peut être sincère, mais aussi un aspect stratégique. C'est que ils ont su, entre guillemets, les amadouer. Je n'enlève pas leur part de sincérité là-dessus, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu leur confisquer leur manif. Contrairement à l'extrême droite, qui tout de suite avait un peu comme des bourrins. Enfin, ils ne savent pas faire autrement. Eux, ils ont dit simplement nous, on sait faire, on a le savoir-faire. Si vous êtes attaqué par la police, on peut vous défendre, on peut même vous apprendre à les attaquer. On sait faire, machin. Il aura appris comment s'équiper, etc. Enfin, c'est un peu c'est la formation professionnelle, si on peut dire.
Oui, parce que tu le décris bien, les gilets jaunes au début, ils étaient sympathiques et ils pensaient même que Macron allait les recevoir.
La police avec nous. Oui, oui, non, voilà. Mais c'est complètement ça.
Ils pensaient même que Macron allait les recevoir gentiment.
Ah oui, c'était d'une candeur, d'une naïveté désarmante et touchante. Mais ils croyaient. Pourquoi ils vont sur les Champs-Élysées en fait? C'est parce qu'il n'y a jamais de manif sur les Champs-Élysées, enfin à part le 30 mai 68, mais enfin, il n'y a jamais de manif de progressistes sur les Champs-Élysées, c'est jamais arrivé. Et c'est là où les Gilets jaunes, ils ont quand même fasciné les gens du bloc. C'est qu'ils disent, les gars, ils disent, putain, nous, entre à faire les ozos entre Nation et République à péter trois banques, bon, franchement, on est ridicule, alors qu'eux, ils foutent la panique dans les quartiers les plus riches de Paris.
Et ils ont brûlé les voitures de luxe.
Ils ont brûlé les voitures de luxe, c'est tout.
Et là, c'était hallucinant.
Oui, attaquer des magasins de luxe, etc. Et les gars se sont dit, mais...
On aurait dû y penser plus tôt.
Oui, mais bon, sauf qu'à 200 et juste dans le milieu militant, tu peux pas le faire. Il faut avoir un certain soutien populaire. Non, mais sinon, ça n'a pas de sens. Il faut avoir un soutien populaire pour... une révolution ou une insurrection suppose un minimum de soutien populaire. Tu peux pas le faire juste à 200 dans ton coin. Enfin, ça, moi, j'y crois pas.
La prise de la Bastille en 1789, c'était quoi?
Ah non, mais il y avait... Alors, je dis pas que c'était majoritaire dans le pays, pas forcément, mais il y avait un soutien populaire autre que juste 200 personnes dans leur coin et 200 intellectuels dans leur coin. Hein.
Enfin, et puis la prise de Bastille,
un côté un peu mythique.
Je veux pas faire l'historien chiant, mais enfin, c'est devenu un événement très a posteriori, Mais
il n'y a pas eu un jour comme ça où ça a basculé, hein. C'est pas un grand soir.
Voilà, je pense que quand même, les gens de l'ultra-gauche sont quand même assez lucides en fait sur le fait qu'ils vont pas faire la révolution à 200, 300 ou même 1500. Et effectivement, ce qui a un peu. Il y a quand même deux choses. Deux facteurs minimum, parce que je n'ai pas la prétention à l'exhaustivité, mais enfin deux facteurs minimum qui permettent pour moi d'expliquer ce qui s'est passé le 1er décembre 2018. Premièrement, c'est que les dispositifs de maintien de l'ordre n'étaient pas du tout adaptés en fait, à ces moments-là, parce que c'est de nouvelles formes de manifestation qui sont peut-être aussi... je m'avance un peu, mais enfin, peut-être que c'est une forme de manifestation qui est plus... qui sera peut-être plus symptomatique du 21e siècle, alors que les schémas de maintien de l'ordre étaient des schémas plus adaptés au mode de manifestation du 20e siècle, avec des organisations syndicales, des gens avec qui tu peux communiquer, la casse qui se faisait en queue de cortège éventuellement, etc. etc. Le schéma du maintien de l'ordre qui n'est pas du tout adapté. Et corollaire ou conséquence de ça, une confusion qui se fait un peu entre les gilets jaunes, les manifestants qui sont un peu, comme tu dis, c'est la première fois qu'ils viennent, ils sont là, la police avec nous, on sait pas, voilà, etc. Et les Black Blocs ou les militants qui sont habitués des manifestations et qui se retrouvent au milieu de tout ça, et là la police sait plus trop quoi faire. C'est vrai que ça n'a pas duré si longtemps que ça, au final, cette béatitude de la police avec nous, très vite, ils ont compris que ça allait pas arriver.
Oui, non, ça a été très
vite. Ils tapent dessus une fois, deux fois, trois fois, après t'arrêtes, quoi. Il y a quand même des indécrottables, chez les Gilets jaunes.
Oui.
Ils sont là, ça fait 8 mois, ils se font taper dessus. Non, mais la police est avec nous, quand même. D'accord, ok. Voilà. Mais ils sont minoritaires, on va en bout de course.
Mais c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur les Champs-Élysées, parce qu'en gros, c'est le seul, beaucoup viennent de province ou de banlieue. Donc, pour les Champs-Élysées, il y a que quand on habite en grande banlieue qu'on y va ou qu'on est touriste, parce que les Parisiens n'y vont pas, en fait.
Mais et donc, bon, c'est un peu le seul truc de Paris qu'ils connaissent. Donc, ils ont donné rendez-vous là. Et puis, Champs-Élysées, Élysée, c'est pas loin. Ils se sont dit, on va aller voir Macron, puis on va aller discuter avec lui. Non, mais c'est mais très oui. naïf. Hein. Et donc, si en fait, c'est comme ça que les Black Blocs les ont séduits aussi. C'est qu'ils les ont. Ce qui a séduit, notamment ce Alban qui est un gilet jaune dont je parle, ce qui l'a séduit chez les Black Blocs, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'ils ont empêché des arrestations, mmh. ils ont protégé des types qui se faisaient charger dessus, etc. C'est ça qui les. C'est ça qui les a.
Motivés.
Qui en a séduit beaucoup mmh. et que l'extrême droite, par exemple, est incapable de faire. Et voilà. Donc, je pense que l'apport des gilets jaunes au Black Bloc ou vice-versa, il a été très important parce que en tout cas ça a revigoré le bloc en se disant tiens il y a autre chose qui est possible que de défiler entre Bastille et Nation. On peut avoir aussi un certain soutien populaire, je dis pas que c'est majoritaire hein, la CAF c'est jamais majoritaire ou très rarement hein. Ça a donné un nouveau souffle. Alors là, c'est un peu éteint. Bon, il y a eu le Covid, tout ça, mais c'est une bascule très importante des gilets jaunes.
Attendons le 10 janvier.
Attendons le 10 janvier, avec impatience, on dirait.
Voilà. En attendant, nous allons demander à Jean-Michel une musique et nous allons revenir en troisième partie pour expliquer les gilets jaunes et les Black Blocs.
Au suivant. Au suivant. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse ou alors un sourire ou bien avoir le temps. Mais au suivant, au suivant. Ce ne fut pas Waterloo, non, non. Mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer. Au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je me délire pas, j'en ai à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant, au suivant, au suivant. Un jour, je me ferai cul-de-chatte ou bonne sœur ou pendu, enfin de ces machins où je ne serai jamais plus le suivant, le suivant.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Thierry, tu évoques la seule réussite de Darmanin, faire défiler les Black Blocs, la société journaliste du
Figaro. C'est génial, il est très fort.
Oui.
Ah non, non, mais il est fort, Normandin.
Oui, tu peux raconter cet épisode?
Non, c'est parce que c'était...
Je me suis régalé.
Oui, oui, non, c'est drôle. Ben, c'est que alors, on est en plein Covid, il n'y a plus de mouvements sociaux, on est un peu endormi, en plus, il y a le couvre-feu. Enfin, en gros, on s'emmerde, c'est en plein hiver. Vraiment, mais vraiment, oui. On se fait chier. Et il y a Darmanin, heureusement, il nous trouve un truc quand même pour nous distraire. C'est qu'il ne trouve rien de mieux à faire que nous faire la loi sécurité globale.
Voilà.
Alors, Darmanin, il est fabuleux.
Il est unique.
Il faudrait inventer. Non, parce qu'il arrive à nous pondre un truc où il est sûr qu'il va fâcher à peu près tout le monde.
Y compris les policiers.
Y compris, presque. Non, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de filmer des policiers. On n'a plus le droit, c'est un peu plus compliqué, mais on peut être poursuivi si on filme des policiers, même dans l'exercice de leurs fonctions.
Voilà.
C'est-à-dire, l'argument étant que oui, bah, si jamais on les reconnaît, d'abord on les reconnaît, il n'y a pas marqué leur adresse sur leur tête non plus, mais si on les reconnaît, ils peuvent se faire agresser par leurs voisins, c'est bon. Alors, on reprend cette histoire de Magnanville, si jamais c'est identifié, vous vous rendez compte, il y en a qui se font tuer par des cinglés, bon, d'accord, mais il n'y a jamais eu un seul cas où l'image d'un policier est provoqué une agression de qui que ce soit. Donc il arrive à nous pondre ça, tout un truc. Donc on n'a plus le droit de filmer les flics en manif, grosso modo. Il rajoute même, alors ça c'est pour Clément Lanneau, parce que il reproche à Clément Lanneau qui, au moment de la dispersion, lui dit de partir, il dit bah non, je suis journaliste, bon, il filme un peu en douce là. Et il dit bah non, bah, vous dégagez quand même et tout. Et la question est posée en conférence de presse à Darmanin qui dit bah oui, mais ce journaliste ne s'est pas accrédité auprès de la préfecture de police de Paris pour suivre la manifestation. Ah bon, bah, pourtant c'est sur la voie publique une manifestation, depuis quand et dans quel pays faut s'accréditer pour suivre une manifestation? Enfin, peut-être en Russie ou
alors là, du coup, les confrères du Figaro se sont réveillés.
C'est-à-dire que, quand même, en termes de liberté journalistique, j'ai un peu le droit de filmer les événements dans une manif parce qu'on risque d'avoir un policier qui passe dans le champ. Bah là, on peut plus travailler. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'est-ce qui gêne là-dedans? C'est que d'abord, avant, il y avait beaucoup moins de gens qui filmaient, il y avait trois chaînes officielles en gros, ou un peu plus, mais ils filmaient derrière les policiers parce qu'il y a du gros matériel, c'est compliqué d'aller au milieu dans les incidents, etc. Là, il y a des, comme tu disais tout à l'heure, des petits journalistes comme Laurent Bortolussi de Line Press ou Clément Lanneau. Il y en a plein, des comme ça, ou des militants simplement avec une petite caméra, un portable et tout. Tout le monde filme tout le monde et la vidéo surveille, tout le monde filme tout le monde. Mais c'est embêtant pour les manifestants parce qu'ils peuvent être plus facilement être reconnus, mais c'est embêtant aussi pour la police parce que eux aussi ils sont filmés. Et donc, quand ils commettent des exactions, ce qui arrive quand même de temps en temps, et ben ça se voit. Et donc c'est embêtant. En plus, les canaux de diffusion sont incontrôlables, c'est sur Internet, etc. Donc qu'est-ce qui les embête là-dedans? C'est que avant, quand les journalistes étaient derrière la police, c'était plus simple parce que c'est l'histoire, c'est comme au cinéma, c'est champ contre champ. Quand tu filmes derrière la police, tu les vois qui se reçoivent des projectiles sur la figure. Évidemment, tu es plus en empathie avec la police, tu dis bien, qu'est-ce qu'ils se prennent? Puis quand tu vas de l'autre côté et que tu vois ce que se prennent les autres, évidemment, tu es plutôt du côté de l'autre. Donc ça a un peu rééquilibré les choses. Il y a des policiers, il y a un policier par exemple qui a été condamné pour avoir ramassé un pavé qui était pas arrivé sur lui, mais qui lui était destiné. Il l'a ramassé, il l'a jeté en direction de la foule, ce qui est quand même complètement dingo, parce que la foule, ils sont pas protégés. Heureusement, il a blessé personne, et c'est mon ami Laurent Bortolussi, très fier de ça, mais qui avait eu cette image et qui a abouti à la condamnation du premier policier, Laurent, et du qui a été condamné dans le cadre des gilets jaunes. Donc, Darmanin, au moment où on s'ennuie, il se dit, ça c'est quand même embêtant qu'on puisse... Il s'embrouille. Alors, c'est sûr que quand dans une conférence de presse, il dit, il faudrait que les journalistes s'accréditent et qu'ils soient suivis par un officier de sécurité. Là, on est chez Poutine. Et donc, ça nous a distrait. Effectivement, il y avait tout le monde, y compris la société des journalistes du Figaro. C'est pas la direction du Figaro, c'est pas Yvan Rioufol, c'est les journalistes du Figaro, un peu. Journée Sophie Figaro et pas être.
Mais tu as assisté à cette.
Mais quand même, c'est assez drôle. Et là, il y avait aussi, évidemment, les Black Blocs qui défilaient avec nous, les journalistes.
Qui t'ont déroulé un tapis rouge parce qu'ils te connaissent bien.
Moi, ça allait. Mais bon, j'ai un peu ironisé. J'ai dit, les gars, que vous êtes dans une manif, vous nous défendez, nous, les journalistes, maintenant, les infâmes médias capitalistes, même, vous défiez avec le Figaro. Bon, c'est assez. Il n'y a que Darmanin qui sait faire ça. C'est un moment où on s'emmerdait. C'est en plein Covid, en plein hiver.
On attend ce qu'il va nous préparer pour le 10 janvier. Avec un peu de chance, il va réussir mieux.
Il est imprévisible.
Je compte là-dessus.
Qu'est-ce qu'on est méchant.
Mais non, on est à Radio Libertaire, voyons.
Non, François... mais enfin, c'est vrai que si on fait le, si on fait le, une étude sur les trois dernières années, les pouvoirs de la police sont ahurissants.
Oui, oui, oui. Puissance. Oui.
Je veux dire, les gens s'y habituent, ils font plus gaffe à ça, mais ils ont tout. Bah,
non, on s'habitue, hein, malheureusement. On s'habitue, c'est tout, hein, comme disait l'autre.
Et quand la police est en colère, les ministres capitulent.
Ah bah là, ça c'est un autre sujet, mais enfin le pouvoir de certains syndicats de police.
Un pays qui obéit
co-gère le ministre de l'Intérieur, mais c'est un pays qui obéit à sa
police. Un pays qui obéit à sa police, c'est un pays policier.
Il faut rappeler quand même la manif des policiers qu'il y avait eu, je ne sais plus où, toute la gauche sauf Mélenchon y était allé, mais Fabien Roussel évidemment, Parti communiste, Olivier Faure, Jadot aussi, qu'on oublie souvent, c'était le syndicat Alliance réclamait un droit de regard sur les peines des gens qu'ils avaient arrêtés. Non mais on est chez les fous là, c'est juste, faut relire Montesquieu, la séparation des pouvoirs, c'est juste ça. Et effectivement, ils réclament des choses invraisemblables, c'est inouï le pouvoir de certains syndicats de police, surtout Alliance d'ailleurs.
Oui.
Dont on croit que c'est le premier,
qui n'est pas majoritaire.
Qui n'est pas majoritaire. Le premier, c'est SGPFO, en fait, qui est un peu plus mesuré et un peu plus
républicain.
Subtil, on va dire. Républicain, oui. Un peu plus malin aussi, en disant le mot.
François, tu avais une question pour Thierry.
Ah oui, alors la question que je voulais te poser, Thierry, c'est les Black Blocs, qui sont organisés d'une façon inorganisée, comment est-ce que d'abord ils ont été confrontés à ce problème, mais comment ils réagissent s'ils se sentent ou ils s'aperçoivent, est-ce que la police, les renseignements généraux, voire les gens d'extrême droite, essayent de rentrer dans leur rang pour leur faire des bêtises,
les infiltrer.
Oui. Alors. Évidemment qu'ils essayent, certainement la police. C'est pas facile quand même, hein, parce que n'importe quel flic d'un service de renseignement te dira que l'extrême droite, c'est un jeu d'enfant pour les infiltrer. Tellement ils sont cons quand même, hein, faut bien le dire. Heureusement, non mais c'est ça qui nous sauve un peu. Hein. Je les sous-estime pas parce qu'ils sont très dangereux, mais ils sont cons, mais ils sont nombreux malheureusement. Mais c'est assez facile de les infiltrer. Il n'y a pas besoin d'avoir lu 25 000 bouquins, etc. Mmh. À l'extrême gauche, c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas qu'il faut connaître Bakounine dans le texte, mais enfin, il faut avoir un minimum de
bagages.
On
ne
peut pas arriver tout d'un coup. Ah ben, j'adore ce que vous faites. Il faut être connu dans les milieux militants, etc. Enfin,
un vernis.
Ouais, un vernis un peu costaud quand même. Et c'est pas facile. Alors, il y a
quand même un élément, je pense, qu'il faudrait qu'on pointe là. Un truc qui fait en réalité que c'est plus simple d'infiltrer l'extrême droite que l'extrême gauche, c'est que l'extrême droite, déjà, c'est très affichés, il y a des chefs identifiés.
Oui, complètement, voilà. tout à fait.
Organisations identifiées,
c'est ça la différence.
Les groupes sont organisés, donc en fait c'est beaucoup plus facile déjà de.
Oui, voilà, t'as raison, c'est parce que c'est structuré, hiérarchisé.
Voilà, c'est structuré, hiérarchisé.
Voilà. Bloc, ça veut rien dire.
Exactement,
je suis un black bloc. Personne va dire je suis un black bloc, un militant du bloc. Parce que ça veut rien dire si moi ou toi, on va, même si on fait rien d'illégal, on va dans le bloc avec une capuche noire et on se masque le visage, on sert juste à anonymiser les autres. On est à ce moment-là un membre du bloc, un militant du bloc. Donc en fait, tu veux infiltrer quoi? Alors oui, il y en a sûrement, ils se déguisent un peu comme les gens du bloc, peut-être que quelquefois ils se cachent le visage pour voir un peu observer, pour voir ce qui se passe, bon, c'est leur boulot. Mais après, tu infiltres quoi? Pour rentrer dans des groupes de discussion, voir comment c'est organisé, etc. C'est très compliqué, c'est des petits groupes affinitaires, il y a une grande part d'improvisation là-dedans, c'est une organisation improvisée. L'extrême droite, c'est sûr, Samuel a raison, c'est beaucoup plus simple, il y a un chef, bon, à partir du moment où t'es copain avec Ayoub, qui de toute façon des relations avec la police, où il y a eu beaucoup d'événements qui laissent penser que parfois il les a peut-être un petit peu informés, enfin c'est même à peu près certain. Je l'ai écrit sur
le documentaire Generation Hate qui montre bien la contiguïté qu'il y a entre la police et l'extrême droite et qui, dans le bar La Citadelle, filme. Il y a carrément des commissaires de police qui sont là, dans le bar d'extrême droite.
Il y a plus de. Disons que je pense qu'il y a plus de flics d'extrême droite que d'extrême gauche. Je connais aussi les flics d'extrême gauche. Non, mais j'en connais aussi. Hein.
T'en connais un, c'est ça?
Ça existe.
Ah, bien sûr, je connais un, mon copain. Est-ce que je dis son prénom?
Non, il est
à la retraite, mais il est à la commission Antifa de Solidaire, par exemple.
D'accord.
Voilà, et c'est un ancien qui était au RG, on peut le dire. Donc, les RG, c'est pas les plus à droite, d'ailleurs. Contrairement
à ce qu'on
pourrait penser. pas tous, ça dépend. Non, mais c'est pas ce qu'il y a de plus à droite forcément. C'est pas là que tu vas recruter, que Alliance va recruter. Hein. C'est pas chez cela. Mais donc oui, il y a quand même plus de proximité idéologique au niveau individuel. C'est-à-dire qu'un policier moyen a plus de chances de se retrouver à la Citadelle qu'au Saint-Sauveur. Enfin, a priori, la Citadelle qui est donc le bar d'extrême droite des identitaires à Lille, qui est toujours d'ailleurs ouvert.
Donc il y a ça, et de toute façon, l'extrême droite, elle a quand même très souvent servi, je ne vais pas tout refaire toute l'histoire, mais les fascistes se disent toujours révolutionnaires, enfin bon, ils sont quand même toujours, ils servent de supplétifs à la police et au capitalisme quand il y a un problème. Quand même, à l'arrivée, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est quand même ça. C'est,
tout à fait.
C'est dans ces milieux-là, dans les milieux d'extrême droite, qu'on recrute les barbouzes, etc. Donc l'extrême gauche, c'est plus compliqué. Beaucoup. Et puis l'extrême droite se vante aussi de qu'ils vont faire un vague truc, ils s'en vantent, même d'exploits imaginaires. Donc ils parlent beaucoup aussi. Hein,
Je pense au DPS.
Hein ?
Au DPS.
Ah, DPS, oui, ça c'est le service d'ordre du Front National, l'ancien. C'était il y a très longtemps. Oui, bah
dans
là.
On recrutait tous les barbouzes pour aller en France.
Oui, oui, oui. Ça c'était bien infiltré par la police aussi, ça. Voilà.
Après, sur l'infiltration policière, il y a énormément de fantasmes quand même.
Oui.
Déjà, d'un point de vue purement opérationnel pour un policier qui va s'infiltre par exemple dans une manifestation, qui va. Alors déjà, il y a savoir, il y a plusieurs choses. Généralement, ils suivent des gens précis, des gens qui savent déjà en fait l'activité. Il y avait eu ce récit qui avait été fait, bon, je ne sais plus c'était au quel mois, peut-être avril, enfin je ne sais plus, mais enfin, un militant autonome qu'ils avaient fiché depuis un certain temps, dont ils savaient qu'il était très actif dans le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, un samedi où il y avait eu pas mal de casse, en gros, il l'avait suivi pendant toute la manif, il l'avait filmé, ouais. Il l'avait pris en photo en train de commettre des machins et tout. Il l'avait interpellé en fin de manif et bop, c'était plié. Mais je veux dire, c'est qu'un policier des renseignements qui s'infile dans un bloc, déjà, la plupart du temps, il n'a pas intérêt à déclencher, entre guillemets, les hostilités.
Non.
Premièrement, pourquoi il n'a pas intérêt? Parce que déjà, ils vont se déclencher toute seule. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le grand mythe.
Ça sert à rien.
Et c'est un grand mythe, je trouve, qui est beaucoup trop répandu à gauche. Et même,
le mythe du policier casseur, bien sûr.
Mais qui est trop répandu à gauche. Et même, on a vu même chez les syndicalistes, même chez
Uber, beaucoup
même
chez Mélenchon.
C'est le mythe de les manifestants sont pacifistes et la police les agresse sans raison.
Voilà.
Et c'est
voilà.
Parce que c'est les casseurs policiers qui déclenchent le truc. Non, c'est faux. L'essentiel des moments d'affrontement sont tout à fait déclenchés par les militants autonomes, les gens du bloc, etc. Et en fait, c'est fait, c'est revendiqué, quoi. Ils s'en cachent pas, ils sont pas en train de se dire non.
Non, mais c'est marrant parce que j'ai un petit chapitre là-dedans où j'ai mis ce que je trouve amusant, quand flic et black bloc sont d'accord, le mythe des policiers casseurs, parce que les deux, ils disent c'est pas vrai. Mais il y a des choses élémentaires. D'abord, effectivement, la colère n'a pas besoin qu'il y ait des policiers qui la bandent. Il y a des gens suffisamment énervés pour. Et donc, ça énerve à la fois la police et les black blocs quand on dit ça. Parce que le deuxième truc, incohérence, qu'ils soient là en observation, et évidemment, ils ne vont pas s'habiller avec des baskets roses et un perfecto orange. S'ils vont en plein milieu de la foule, ils vont plutôt s'habiller en noir. Et ils observent, ils regardent un peu ce qui se passe, etc. Ou ils suivent quelqu'un, et là, ils vont un peu se fondre dans la masse. Mais qui se livrent à la casse, ça serait un risque énorme. Parce que d'abord, il faut arrêter d'imaginer que la police, c'est un corps homogène, etc. On sait très bien qu'il y a une guerre entre services. Et si le gars, il se fait. D'abord, il peut se faire taper par un CRS, c'est pas marqué. Qui est flic sur son front, il peut se prendre une balle de LBD 40. S'il se fait arrêter, je pense qu'il y a certains CRS à qui ça ferait très plaisir de mettre au ballon un collègue des renseignements. Mais vous imaginez le scandale que ça déclencherait si un flic en activité, en service, qui aurait. Ça ferait un scandale.
Mais tout ça pour rien, en fait, quoi.
Et pour rien, il n'y a pas besoin.
Ça ne servirait à rien. Ça n'aurait aucun intérêt.
En plus, est-ce que vraiment ça sert le pouvoir que les manifs dégénèrent? C'est pas certain. Est-ce qu'on va dire que parce que les gilets jaunes, ça a dégénéré, qu'il y a eu un niveau de violence quand même jamais égalé, je pense, en France depuis très longtemps, dans des mouvements de type populaire, dans les gilets jaunes, est-ce que ça a servi Macron? Ça me semble pas du tout.
Il faut voir le film Un pays qui se tient sage de David
Dufresne. Oui, complètement. David Dufresne,
tu en parles.
Tout à fait. Et donc, ça, c'est pour moi. Alors, ça, c'est.
J'aurais des critiques à faire sur ce film. Quand même.
Oui, bon, mais ça, on l'a diffusé à Publico.
C'est autre chose.
Mais on a fait une conférence débat à Publico sur ce film, justement pour illustrer certains.
Mais pour revenir sur ce policier casseur, après je vais abréger avec ça, mais c'est marrant parce que c'est tout le temps la gauche qui dit ça. C'est la gauche légaliste. Mélenchon, c'est son grand truc. Je me demande s'il n'est pas persuadé. Non, parce qu'il dit carrément, on voit des types qui font de la casse. Et 5 minutes après, on le voit avec un brassard de police. Mais qu'on me montre une image, j'ai tout regardé, toute. Jamais ça. Tu as des types, effectivement, qui ont des looks un peu capuche, machin, bon, un peu soit de racaille, soit de black bloc, ce que tu veux. Mais évidemment qu'ils se fondent dans la masse, hein, qu'ils vont adopter des looks un peu comme ça. Et puis il y en a peut-être qui ont un perfil, un truc, mais bon, ça c'est normal. Mais des flics qui cassent, des gens qui cassent, et on voit 3 minutes après le même avec un brassard de police, ça n'a jamais existé. Et tout le monde est persuadé d'avoir vu ces histoires-là. C'est des images comme ça. Et c'est pas vrai. Et ça c'est aussi pareil. Bernard Thibault à l'époque disait ça. C'est totalement fantasmatique.
Ce que je trouve marrant, c'est les gens qui disaient ça pour les gilets jaunes. Parce que quand tu vois le bordel que ça a été, je veux dire, si admettons, il y a tout le bordel des gilets jaunes eux-mêmes. Tu prends un flic qui casse une vitre en plus, mais ça change quoi?
Oui, ça change.
Ça n'a aucun intérêt.
Ça n'a aucun intérêt.
Mais c'est drôle que tu prennes l'exemple de Mélenchon, parce que c'est vrai que c'est un mec, il a vu des trucs que personne n'a vu, qu'il est trop fort.
Mais non, mais parce que Mélenchon, ou la gauche légaliste, et Mélenchon, il a un côté quand même un peu binaire, on va dire. On est dans notre camp, bon, mon camp, c'est les gentils. Ceux qui cassent, c'est des méchants, parce que moi, je suis pas violent. Donc s'ils cassent, c'est forcément des flics ou l'extrême droite. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas supportable. Alors, est-ce qu'ils le croient vraiment ou pas? J'en sais rien. Mais pour eux, c'est pas supportable de dire il y a des gens dans mon camp qui, eux, se livrent à des pratiques illégales et violentes et qui sont quand même des progressistes, ils sont quand même dans le camp progressiste. C'est pas imaginable pour eux. Et donc, t'as raison de souligner ça. C'est vrai que c'est un truc qui m'agace un peu, ce mythe du. Mais là, c'est ancré dans la plupart des militants de gauche. Hein, ça,
oui, c'est ça qui est intéressant à observer. C'est que moi, quand j'avais fait.
Moi, je demande qu'on me montre. Mais alors, tout le monde a vu. Hein, ils ont tous vu ça. Tout le monde a vu une fois. Oui, moi, c'est bizarre. J'ai jamais vu. Ça a jamais été filmé. Alors, tout le monde filme tout le monde.
Ouais, c'est vrai.
Et les soi-disant preuves qu'on trouve sur Internet, mais c'est franchement, c'est bullshit. C'est rien du tout. Quoi.
Mais c'est vrai que c'est un truc, moi, quand j'avais fait mon mémoire, j'avais un petit côté un peu presque anthropologue. Ou ethnologue, quoi. Parce que bon, donc moi, je discutais dans les manifs avec des syndicalistes, des machins, des trucs. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont tous très persuadés de ça, quoi. C'est pour eux, c'est une vérité presque indiscutable.
Ils
quoi,
sont sûrs d'avoir vu des images.
Voilà.
C'est marrant parce que
ils sont sûrs d'avoir vu le truc. C'est ça qui est étonnant.
Moi, j'ai un copain, il me dit ah, si, moi, j'ai vu un type qui cassait, et deux minutes après, on le voit qu'il y a un brassard police, il cassait la vitre de l'hôpital Necker et tout. Alors là, je connais bien l'histoire.
Ouais, l'hôpital Necker, c'est fort.
Mais pas du tout. Je lui montre, il dit ah non, je suis trompé, mais je l'ai vu ailleurs. Enfin. Et non, en fait, tu l'as pas vu, tu as envie de le voir.
C'est un truc assimilable à la foi.
Totalement. Hein?
Et c'est
totalement,
une foi de charbonnier.
Oui. Totalement, totalement. Oui, c'est vraiment une foi de charbonnier. Ouais.
Alors, avant qu'on ne se quitte, Thierry, je rappelle le titre de ton livre, « Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues » aux éditions de l'Observatoire. Alors, tu as un chapitre qui se cache sous les cagoules.
Mm-hmm.
Intéressant. Donc la sociologie des Black Blocs, d'après toi, serait plutôt des classes moyennes blanches.
Oui.
La jonction avec la banlieue se fait malheureusement lors des marches blanches, parce que souvent les familles,
ouais, demandent, oui, souvent les familles
demandent à ce qu'il n'y ait pas de violence.
Voilà, voilà.
Voilà. Et les femmes, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, seraient un tiers à peu près du bloc.
Oui, oui. Alors, bon. Évidemment, il n'y a pas des statistiques précises avec des études de l'INSEE ou un sondage de l'IFOP, mais c'est ce que disent à la fois la police comme ça et les gens du bloc aux doigts mouillés.
Et ça a évolué parce qu'avant elles étaient plutôt au repos du guerrier, tandis que maintenant elles sont vraiment en première ligne avec les.
Ah, elles vont carte. C'est un peu l'évolution aussi de la société. Hein. Enfin, ça suit l'évolution peut-être trop lente, mais de la société. C'est-à-dire que oui, maintenant elles vont
au front.
Elles vont au charbon, elles vont au front. C'est vrai que j'en parle là, mais il y a un ancien autonome des 70, très sympa et tout, qui me dit, c'est vrai, je m'étais jamais fait la réflexion, mais il y avait beaucoup de femmes chez nous qui étaient militantes, à peu près la moitié, mais en fait, quand je réfléchis, elles nous attendaient, elles nous faisaient la bouffe, elles nous soignaient les bobos, et elles n'allaient pas au carton, quoi.
C'est plus le cas, elles vont au carton. Et elles réussissent magnifiquement.
Surtout parfois, c'est pas un secret de fabrication, la police le sait de toute façon. Mais c'est vrai que il y en a qui sont malines, hein, qui ont l'air de Sainte-Nitouche, puis qui passent du matériel possiblement offensif. Comme ça, ils le savent, hein, je dévoile pas de secret. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut une femme pour fouiller.
Oui, exact. Donc ils sont
pas sûr qu'il y ait la moitié de femmes dans la police, ça progresse, mais enfin il n'y a pas encore, donc c'est plus compliqué et ça passe plus inaperçu.
Voilà, sans compter qu'on a les clés de facteurs et qu'on peut cacher les choses dans les immeubles avoisinants.
Il y a tout ça aussi, oui, voilà. Il y a tout ça.
C'est vrai que c'est un des avantages du patriarcat, c'est quand tu veux sortir d'une manif, tu sors avec une fille et puis voilà, quoi, le policier il dit non, elle peut pas être méchante, c'est une fille. Quoi.
Voilà,
c'est pas méchant les filles, on ne comprend pas.
Non, il n'y a que moi.
Il n'y a que moi, oui.
Qui suis méchante. François, tu. Un dernier mot pour Thierry Vincent avant qu'on ne conclue.
Thierry, je tiens à te préciser que Mariama n'est absolument pas méchante.
Non, mais elle a été exclue du lycée 3 jours pour avoir embêté un de mes copains parce qu'on a une connaissance commune, donc elle est très dangereuse. Non, elle est très sympathique, Mariama.
Samuel,
Non, mais je pense que même, moi, pour revenir peut-être sur le documentaire, nous sommes tous des casseurs, donc comme je disais un peu en rigolant tout à l'heure, qui a été une des sources que j'ai étudiées dans mon travail de recherche sur la médiatisation du bloc, c'est vrai que quand je disais, c'est comparativement à toute l'offre médiatique qui était disponible, c'était quand même un documentaire, on disait, quand même, il y a un effort qui a été fait pour essayer de donner la parole, essayer de comprendre, essayer de machin. Et c'est un truc qui était assez rare, surtout à la télévision. Mmh. Parce qu'à la limite, dans les articles papier, bon, tu pouvais toujours trouver un marginal alors, oui, qui voulait un peu la vie des autres. Mais à la télévision, c'est catastrophique.
Alors, à la décharge un peu des journalistes aussi, c'est que souvent, les gens du blog, ils veulent pas. Donc quand ils veulent pas, bah, après.
C'est vrai qu'ils veulent pas. Mais ils ont de bonnes raisons de pas vouloir.
C'est un cercle vicieux. Voilà, les journalistes ont de bonnes raisons de se méfier parce qu'ils sont jetés. Du coup, ils disent du mal des gens du blog parce qu'ils ont une mauvaise perception. Du coup, les autres disent, bon, on a raison de se méfier. Enfin, c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Mais c'est vrai qu'il y a, d'une manière générale, il y a pas beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre. Parce que, en fait, je pense que très sincèrement, à la tête de certains journalistes, de toute façon, c'est comme ça, c'est méchant, c'est hooligan, ils sont tellement persuadés que ça qu'ils cherchent pas autre chose.
Oui, mais c'est
une paresse intellectuelle, ce que je dis.
C'est vrai, mais
que de refuser la qualité de militant, en fait. Militant, ça veut pas dire que t'es bien, hein. C'est pas des militants violents, des militants qui sont des saletis, des gens qui sont des gens très bien, mais juste reconnaître la qualité de militant politique. Ce que fait volontiers d' ailleurs la police. Je pose la question à des gens de SGPFO, donc, qui est le premier syndicat devant Alliance, qui est plus républicain, entre guillemets, on va dire, et qui eux disent oui, c'est effectivement des militants politiques, c'est pas la même chose que des casseurs, on confond toujours les deux. Non, ce sont des militants politiques, qualité que leur dénient des gens de la gauche légaliste, comme Mélenchon ou les syndicalistes. Non, ce sont des militants politiques. Que ça plaise ou pas, ça dérange, hein. Je comprends que ça dérange, mais c'est comme ça.
Ça dérange parce qu'ils ont une culture politique,
oui,
très proche de l'anarchisme.
Oui.
Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent jusqu'où ne pas aller, et tu as même interviewé certains qui disent la question aller plus loin ou pas.
Voilà.
Comme le faisait Action Directe.
La lutte armée.
Ouais. La lutte armée.
Bah,
la question de la lutte armée.
Oui.
On peut faire un focus.
La question de la lutte armée, alors ça, c'est un peu la hantise de la police, du pouvoir. Il y a le spectre d'Action Directe. Bon, Action Directe, c'était quand même pas un très grand groupe. Hein. Enfin, c'était quelques dizaines de personnes tout au plus. À la fin, ils étaient quatre, faut pas exagérer. Bon, ils ont tué deux patrons plus quelqu'un qui avait été lundi qui a conduit à leur première arrestation. Ils ont pas tué non plus 50 personnes. C'était pas. Comment dire, bon, c'était pas Daesh, hein, au niveau du terrorisme non plus. Je dis pas que c'est bien, mais parce que je pense que tuer quelqu'un, c'est toujours quand même assez plus que problématique. En plus, bon, en termes d'efficacité, pour moi, il est évident que ça n'a amené que plus de répression, que ça n'a pas été efficace, même dans leur perspective. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que alors la plupart des militants disent la lutte armée on l'élimine pas par principe, mais là, de toute façon, c'est le choix qu'on fait en dernier. Mm-hmm. Et là, les conditions sont pas réunies, parce qu'on va pas faire la lutte armée à 15 ou 100 comme faisait Action Directe. Et l'autre truc, c'est que de fait, factuellement, il n'y a pas eu de réseau terroriste d'extrême gauche démantelé, de réseau armé. Alors que je rappelle juste qu'il y en a eu plus d'une dizaine d'extrême droite, ce qu'on oublie toujours, armés avec des projets d'attentats, etc., d'assassinats, d'empoisonnement de la viande halal dans les grandes surfaces. Depuis 2016, on a 12 ou 13 réseaux comme ça démantelés.
Tout à fait.
Un en Allemagne aussi récemment, là, qui voulait attaquer le Parlement. Bon, le danger terroriste, il est évidemment chez les islamistes et les djihadistes, et à l'extrême droite, il n'est pas, pour l'instant en tout cas, à l'extrême gauche, pas du tout.
Et ça, c'est une idée reçue.
Si tu me permettrais juste un petit mot sur ce sujet, des fois qu'il y a des gens d'extrême gauche qui nous écoutent. C'est marrant parce que Che Guevara lui-même, en fait, il disait que ça ne servait à rien de la lutte armée dans les pays occidentaux, que en fait, l'état technologique des pays occidentaux était tel que ça n'avait aucun intérêt, que c'est pour ça que lui préférait la mener dans le tiers-monde. En fait. Moi, je pense qu'il avait assez raison et c'est un constat qu'il a tiré il y a assez longtemps. Donc aujourd'hui, c'est 100 000 fois pire. Hein.
Oui.
Et donc, du coup, je pense que c'est bien si à l'extrême gauche, les gens gardent ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire la vie pour eux, et qu'ils ne fassent pas effectivement des attentats qui n'apportent pas grand-chose d'un point de vue politique, et qui, de toute façon, ne mènent à rien, à part des gens qui meurent pour rien, à gauche.
Et une recrudescence. À l'extrême gauche.
Et
une recrudescence.
Et de la répression, absolument.
Voilà. Tout à fait. Voilà. Thierry, merci de ta visite. Je rappelle le titre de ton livre, Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues, aux éditions L'Observatoire. Donc, il est à 19 € et on le trouve à Publico, 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Et il en reste 4 exemplaires. Je les ai comptés dimanche dernier.
Ça y est, demain matin, ils ne sont plus là. Ben, 4 auditeurs, ils vont l'acheter.
Voilà, j'espère que les auditeurs ont compris qu'il fallait l'acheter et le faire circuler. Et comme il y a les fêtes, on peut l'offrir, surtout qu'on sera en famille, et en famille on se tape dessus, donc Ça peut servir.
Si un cousin de Darmanin qui nous écoute, ce serait bien de lui en offrir un pour Noël. Je vous assure.
Voilà,
rigolo.
Tout à fait. Hein? Qu'est-ce qu'on est méchant.
Ou taquin, pas méchant, taquin.
Alors, nous attendons le 10 janvier pour être vraiment méchant.
Ou très taquin. Très très taquin.
Voilà. Merci à Jean-Michel pour la technique. Merci à François, à Samuel pour m'avoir
épaulé.
Aider sincèrement dans cette
avec
émission.
Avec plaisir, comme toujours. Hein.
Voilà.
Et merci donc, Thierry Vincent.
Eh bien, merci, merci Thierry, à vous merci, trois.
On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de Pas de quartier. Et d'ici là, portez-vous bien et protégez-vous.
Au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nur. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. Oh,